Bonjour, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 133. Psaume 133, on va dire tout le psaume 133. Je commence. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et bien que Dieu ajoute sa bénédiction à la parole que je vais vous annoncer aujourd'hui. Chaque fois que je vais dans une assemblée, il y a toujours quelqu'un pour louer Dieu et dire « Ah, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est vrai que ils sont sincères. Et puis ce psaume est un psaume d'amour, et c'est un psaume très poétique, très spirituel, l'huile, n'est-ce pas, précieuse, qui est répandue sur la tête, ça montre l'onction, n'est-ce pas, et on pense à la barbe d'Aaron, ce vieux sage, ce vieux serviteur de Dieu, sacrificateur, ça. Et puis le bord de ses vêtements, la rosée de l'Hermon, c'est magnifique, c'est très poétique. Mais si on fait attention, c'est quand même écrit là, voici qu'il est agréable, qu'il est doux, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, car c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. C'est ça la volonté absolue de Dieu. C'est que des frères et sœurs arrivent à s'aimer tellement que la bénédiction est répandue sur eux, et même la vie éternelle. Lorsque j'ai eu la révélation de la vie communautaire en 77, c'était une joie immense. Vous rendez-vous compte, recevoir la clé qui permet de vivre comme les premiers chrétiens dans l'ancienne Jérusalem, qui s'aimaient, qui partageaient tout, qui mettaient ensemble, et qui avaient un seul cœur, une seule âme, qui prenaient leur repas dans la simplicité de cœur, en accueillant ceux qui étaient faibles, en vivant ensemble, non pas parce que c'était une loi, mais parce que ça venait du cœur de Dieu. Alors mon épouse et moi, on n'a pas hésité, et entre la sécurité de notre foyer et les promesses qui s'attachent à la parole de Dieu, on n'a pas hésité. Mais entre la sécurité de notre foyer et les promesses qui s'attachent à la parole de Dieu quand elle est mise en pratique, il y avait les eaux démontées et les traîtrises des faux frères et les hypocrisies et les méchancetés, les calomnies et toutes ces choses dont on a été victime à partir du moment où on a voulu être des pionniers. Mais nous étions poussés par le chuchotement paisible du Saint-Esprit. On était soutenu par une foi simple, mais ferme. La foi basée sur les Écritures. Oui, Jésus et les apôtres vivaient en communauté. Oui, Jésus a dit à ses disciples qui avaient tout quitté pour le suivre, « Prêchez tout ce que je vous enseignais, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous enseignais. » Et les disciples, les apôtres, ont commencé à enseigner de tout vendre. Les chrétiens, les premiers chrétiens, là, les nouveaux convertis, ont tout vendu et se sont mis à vivre en communauté. Oui, c'était la base de notre foi, parce que c'était la base, c'était l'idée, c'était le cœur de Jésus qui était là, qui s'exprimait, et qu'on trouve dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Alors, nous avons mis notre confiance en Dieu et nous nous sommes embarqués dans une forme de vie qu'on ne connaissait pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Aucun modèle. Celui de la parole de Dieu, c'est tout. Aucun modèle. Bon, on avait bien rencontré quelques 68 heures attardés qui essayaient de tondre les moutons et de s'habiller avec des robes à fleurs. Et bon, mais c'était pas notre genre, c'était pas le style biblique, n'est-ce pas? On avait aussi rencontré une secte avec un gourou qui se faisait un pognon fou et qui s'enrichissait sur le dos de ses ouailles. Bon, ben ça c'était pas notre monde non plus. Et tout n'a pas été facile, mais tout a été béni. Tout a été béni. Notre décision, notre détermination, notre courage. On était comme des pionniers. On était mus par la foi.
Et nous étions toujours en train de fuir devant la tempête des critiques et des « Oh, Michel Janton, la folie des grandeurs, le désir absolu de passer pour quelqu'un de spécial, etc. » On a continué d'avancer. Mes frères et sœurs, une parole de Jésus est donnée à notre heure, aujourd'hui. Écoutez ce que le Seigneur dit. « Mon peuple doit être mis à l'épreuve en tout, pour qu'il soit préparé à recevoir la gloire que j'ai pour lui, la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Et celui qui ne supporte pas le châtiment n'est pas digne de mon royaume. » Aujourd'hui, ça fait 35 ans que nous vivons en communauté sur cette révélation biblique. Et les conditions de vie aujourd'hui dans notre communauté sont meilleures qu'au début. On a acquis une certaine sagesse parce qu'au début on savait rien, on savait pas comment gérer tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, ceux qui nous critiquaient, eh bien, ils nous admirent. Ils nous trouvent formidables. Ils ont changé les choses, ont changé, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on n'a plus de difficultés aujourd'hui? Bien sûr qu'on a encore des difficultés. Qu'en est-il des difficultés aujourd'hui? Eh bien, il y a toujours un chemin étroit à suivre. Il y a toujours des montagnes escarpées à franchir. Alors Dieu, dans son amour, c'est vrai, nous a confié de grandes révélations en vue du rétablissement de toutes choses dont il est parlé dans Actes 3:21. Il faut savoir que, étant donné que nous avions une âme de pionnier, Dieu a investi en nous, voyant que nous obéissions pour une parole révélée, il nous en a confié d'autres, parce que Jésus, il est écrit dans Actes 3:21, ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ce ne viendra pas avant ce temps-là. Donc, pour racheter le temps, pour précipiter les choses, il faut que nous cherchions les choses qui sont à rétablir dans l'Église. Mes frères et sœurs, il nous faut tous entrer dans le processus du rétablissement de toutes choses. Parce que Dieu continue son œuvre. Il ne s'est pas arrêté. Il continue l'œuvre qu'il a commencée avec Luther dans les années 1500. Luther, cet homme courageux, qui a osé, déterminé, qui a osé tenir tête à la papauté et qui a rétabli le salut par la foi parce que c'était oublié, l'apostasie régnait et on en était venu à vendre le salut, on appelait ça les indulgences, que notre cher bonhomme, là, comment il s'appelle, François. Eh bien, lui encore, il vend des indulgences. Vous avez vu tous ceux qui vont tweeter, n'est-ce pas, sur son compte. Eh bien, n'est-ce pas, c'est formidable. Ils vont pouvoir avoir des indulgences, c'est-à-dire des remises de peine, leur purgatoire durera moins longtemps. Enfin voilà, il a rétabli tout ça. Il continue à faire tout ça. Luther, il a rétabli le salut par la foi au péril de sa vie. Et puis ensuite est arrivé un autre bonhomme qui a rétabli la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il s'appelait John Wesley, un homme de courage, un homme qui ne se coulait pas dans le moule de tout le monde. Et puis ensuite il y a eu la révélation qui est venue, le rétablissement du baptême par immersion correctement, puis le baptême dans le Saint-Esprit, puis l'évangélisation en masse avec des guérisons miraculeuses, avec des dons de l'Esprit qui se manifestent. Et Dieu continue. L'Évangile n'est pas encore pleinement rétabli. Il y a beaucoup d'autres choses dans les Écritures qui ne sont pas pratiquées par l'Église. L'Église dort. Toute l'Église dort. Les vierges folles dorment, mais les vierges sages aussi, elles dorment. Mais moi, je veux être la voix qui crie « L'Époux vient !» Il faut aller à sa rencontre, l'Époux vient. Je veux être de ceux qui marchent avec la colonne de feu, avec la colonne de nuée. Vous savez, du temps de Moïse, la colonne s'arrêtait, tout le peuple s'arrêtait, la colonne se remettait en marche, tout le monde suivait. Qu'est-ce que vous voulez être, vous? Et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les principes moraux n'ont pas cessé de baisser, et le nombre des crimes a augmenté, et la pudeur sombre au plus bas, et beaucoup de nos contemporains sont embarqués dans des espèces de montagnes russes catastrophiques à la recherche d'une excitation sur le moment, et en faisant ça, mes frères et sœurs, ils sont en train de sacrifier les joies de l'éternité. Souvenez-vous que tous les grands empires du passé se sont effondrés à cause de la mollesse, à cause du laxisme, à cause de la paresse, à cause de la mollesse. Les gens en sont arrivés aujourd'hui à renoncer même à leur liberté pour avoir le confort, n'est-ce pas, cette sécurité. Ils sont en train de tout perdre. Ils perdent en fait leur confort, ils perdent leur sécurité, ils perdent leur liberté. Mes frères et sœurs, ne cédez pas aux séductions de Satan. Défendez la vérité. Soyez les défenseurs de la vérité. Le vice ne mène jamais à la vertu. La haine n'engendre jamais l'amour. La lâcheté ne produit jamais le courage. Le doute n'inspire jamais la foi. Alors ne soyez pas attristés parce qu'on se moque de vous. Hein? C'est les insensés qui se moquent de votre honnêteté. C'est les insensés qui tournent en ridicule la chasteté, le fait que vous ne voulez pas de relations sexuelles avant le mariage, vous les jeunes gens. C'est les insensés qui se moquent de vous. Ils rient de votre obéissance au commandement de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Ils sont toujours moqués. Lorsque Noé a reçu l'ordre de construire l'arche, la foule des insensés a répliqué, ils ont regardé le ciel sans nuages et ils se sont moqués jusqu'à ce que la pluie tombe sur eux tous. Mettez-vous du côté de Dieu, comme les prophètes d'autrefois, comme les saints disciples à Jérusalem, comme dans l'ancienne Jérusalem. Si vous voulez aller dans la nouvelle Jérusalem, il faut que vous soyez comme dans l'ancienne Jérusalem. Les temps changent, c'est vrai, ça, on passe pour des idiots, mais la vérité, elle demeure. Mes frères et sœurs, si on ne tire pas les leçons des expériences du passé, on est condamné à les répéter avec tout le chagrin, avec toute la souffrance, avec toutes les angoisses que ça, qui sont accompagnées par cette négligence de tirer les leçons du passé. Mes frères et sœurs, et vous les jeunes gens en particulier, n'aurez-vous pas la sagesse d'obéir à celui qui connaît la fin depuis le commencement? N'aurez-vous pas la sagesse d'entrer dans le plan de Dieu, ce plan du salut, plutôt que de suivre le serpent qui a méprisé la beauté de ce plan divin? En vivant la parole de Dieu, vous êtes un pionnier. Et le dictionnaire dit qu'un pionnier, c'est quelqu'un qui marche devant pour préparer, pour ouvrir la voie que d'autres vont suivre. La voix qui crie « L'époux vient » ne peut être que la voix des pionniers. Pouvez-vous trouver le courage? Pouvez-vous trouver la détermination qui ont caractérisé les pionniers tels que Martin Luther, qui s'est élevé contre le catholicisme au péril de sa vie, pour proclamer que le salut ne s'achète pas, mais que Jésus a déjà payé le prix, et que nous sommes sauvés simplement en y croyant? Aurez-vous le courage? Est-ce que vous allez trouver la détermination qui ont caractérisé John Wesley, qui a osé tenir tête aux protestants pour leur dire clairement que la foi n'est pas suffisante? Parce que les protestants s'imaginaient, voilà, on croit qu'on est sauvé, donc on est sauvé, on peut vivre comme on veut. Et Wesley leur a dit, non, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut marcher dans la sanctification, se mettre à part pour Dieu. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu, pas parce que c'est une loi, mais parce qu'on aime Dieu. Il a été chassé dans toutes les églises. Personne ne le voulait, personne ne l'invitait. On le chassait. Il était condamné à prêcher dans la rue. Mais Dieu a agi au travers de lui. Il a rétabli la sanctification et des dizaines de milliers ont été sauvés. Est-ce que vous saurez trouver le courage et la détermination de William Branham qui a osé tenir tête aux pentecôtistes pour rétablir des vérités fondamentales concernant l'unité de Dieu? Est-ce que vous allez oser tenir tête aux religieux, aux grands pontifes qui sont toujours là en train de dire biblique, 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 mais qui connaissent même pas la Bible vraiment? Qui peut se vanter de la connaître? Oh mes frères et sœurs, la colonne de feu avance dans la nuit, la colonne de nuée avance tous les jours. Ne restez pas assis passivement attendant que Dieu vous bénisse. Il ne peut pas vous bénir. Pourquoi il ne peut pas vous bénir? Parce qu'il ne change pas. Et Dieu ne bénit que le travail que vous faites. Dieu ne bénit que ce que vous faites. Dieu ne bénit que vos actes. Dieu ne bénit que l'œuvre de vos mains. Il ne bénit pas les passifs. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as l'esprit d'un pionnier? Le monde a besoin de pionniers aujourd'hui. L'Église a cruellement besoin de pionniers aujourd'hui. De gens qui marchent avec la colonne de feu, avec la colonne de nuée, qui marchent en avant, devant, qui montrent le chemin, qui osent créer un chemin là où il n'y en a pas,
Le monde n'a pas besoin de parasites. Le monde n'a pas besoin de parasites, de religieux bien confortablement assis et qui ne font rien d'autre que d'être gentils, de payer leurs impôts et de poser leur derrière dans une église. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de pionniers, pas de lavettes efféminées. Le monde et l'église n'ont pas besoin de vierges folles. Les vierges sages n'ont pas besoin de vierges sages, elles ont besoin d'entendre la voix qui crie, la voix d'un pionnier. Est-ce que vous allez être ce pionnier? Est-ce que vous allez vous lever pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous allez dire, oui Michel, j'ai compris. Voilà l'esprit de prophétie, j'ai compris maintenant. Je veux faire la volonté de Dieu. Je vais me mettre à lire la Bible et à faire tout ce que je trouve et tout ce que je comprends dans la Bible. Et je vais prier pour que Dieu m'inspire, pour que je comprenne encore davantage. Et s'il y a des choses qui doivent être rétablies, je serai celui qui les rétablira. Je ne veux pas simplement être un suiveur dans le monde et un suiveur dans l'Église. Je ne veux pas marcher les deux pieds, un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je veux être quelqu'un de différent. Est-ce que tu vas avoir ce courage? Est-ce que tu vas le vouloir, ce courage? Est-ce que tu vas vouloir payer le prix? Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide. Qu'il ouvre tes yeux, qu'il te fasse comprendre que le monde a besoin de tels hommes, de telles femmes, de tels jeunes gens. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié. Amen.